divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Vito, vice-président de la Fédération nationale de la libre pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Stamboul. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Porte-parole de l'Union juive française pour la paix et auteur de l'ouvrage intitulé « Contre l'antisémitisme et pour le droit du peuple palestinien ». Ma première question sera un peu traditionnelle. Pouvez-vous, Pierre, vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, j'ai 72 ans, je suis professeur de mathématiques retraité, j'habite Marseille, je suis militant syndicaliste et je suis un des porte-parole de l'UJFP, donc Union juive française pour la paix. Je vais peut-être juste ajouter quelques mots de mes origines parce que c'est en lien avec le livre dont on va parler. Mes parents étaient des juifs de Bessarabie, un pays qui est aujourd'hui partagé entre la Moldavie et l'Ukraine. Ils étaient communistes, ils sont arrivés en France, ils se sont engagés dans la résistance, la MOI. La famille de ma mère a été pratiquement complètement exterminée. Et mon père était dans le groupe Manoukian, il en est un des très rares survivants. Il a été arrêté et torturé par la police française, livré aux Allemands et déporté à Buchenwald.
Alors parlons maintenant un peu de l'Union juive française pour la paix. Je ne suis pas persuadé que tous nos auditeurs connaissent précisément cette association, et c'est fort dommage. Quelle est son histoire? Quel est son but? Et quelles sont ses actions?
Notre association existe depuis 1994, donc ça fait maintenant 29 ans. Au tout début, c'était sur le slogan « Pas de crime en notre nom ». Et puis, assez rapidement, confronté à la réalité de la situation Israël-Palestine, nous avons découvert l'occupation, la colonisation, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le suprémacisme, l'apartheid. Et donc nous nous sommes très fortement engagés comme étant la composante juive dans le mouvement de solidarité avec les droits du peuple palestinien. Nous faisons complètement nôtre les revendications de l'appel palestinien au boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël tant qu'il ne respectera pas le droit international, appel qui date de 2005. Et les revendications, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation, la libération des prisonniers, la destruction du mur, la fin du blocus de Gaza, l'égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, et puisque le crime fondateur de cette guerre était l'expulsion préméditée du peuple palestinien, le droit au retour des Palestiniens. Nous sommes une organisation juive antisioniste, antisioniste parce que juive, et j'expliquerai un petit peu quand on va aborder cette question comment pour nous le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, mais c'est une atteinte, une injure à notre histoire, à notre mémoire et à nos identités. Et évidemment, nous sommes une association antiraciste. Nous ne mettons pas, je l'expliquerai aussi tout à l'heure, l'antisémitisme comme un racisme à part. Aujourd'hui, nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes, que ce soit le racisme contre les Juifs, contre les Arabes, contre les Noirs, contre les Roms ou contre les musulmans.
Eh bien, entrons dans le vif du sujet, puisque vous l'avez abordé. Il est de plus en plus fréquent dans le débat public de mettre un signe égal entre antisionisme et antisémitisme. Vous avez commencé à dire un peu ce que vous en pensiez. Pouvez-vous développer, Pierre ?
Alors d'abord, ceux qui font cette assimilation, c'est un mélange de gens incultes et de gens mal intentionnés, et souvent les deux à la fois. Donc je vais un petit peu préciser, de mon point de vue, ce qu'est l'antisémitisme, ce qu'est le sionisme, et pourquoi nous sommes antisionistes. L'antisémitisme, d'abord, le mot est impropre, c'est le mot de l'ennemi. Les sémites et les ariens, ça n'existe pas. Les races, ça n'existe pas. Le mot sémite, le mot arien, c'est une invention des intellectuels racialistes de la deuxième moitié du 19e siècle, et en particulier de l'allemand Wilhelm Marr qui va inventer ce terme-là. Donc je vais d'abord parler de historiquement ce qui a eu lieu, c'est-à-dire l'antijudaïsme chrétien. Quand le christianisme s'impose en Europe à la chute de l'Empire romain, il va décrété contre les Juifs toute une série de menaces et toute une série de mesures. Il considérera les Juifs comme étant un peuple déicide, comme un peuple qui veut dominer le monde, comme des gens qui commettent des crimes rituels. Il va leur interdire la possession de la terre, il va les enfermer dans des zones qui porteront le nom de Juderia en Espagne plus tard ou de ghetto en Europe. Et cet anti-judaïsme chrétien va provoquer un assez grand nombre de massacres et d'expulsions, les plus fameux étant ce qu'ont commis les croisés avant d'aller massacrer le musulman en Terre Sainte, l'Inquisition, notamment l'expulsion d'Espagne et les centaines de milliers de morts qui l'ont précédé, les Cosaques de Khmelnytsky en Ukraine, ça c'est un petit peu les crimes de l'anti-judaïsme chrétien. Et puis apparaît au XIXe siècle, se surajoutant à cela, l'antisémitisme racial. Il y a plusieurs causes. Il y a le début de la sortie des Juifs du ghetto qui fait qu'ils deviennent une minorité visible. Il y a l'explosion des nationalismes en Europe et tous ces nationalistes veulent des États ethniquement purs. Et donc les Juifs, c'est la minorité qui dérange tout le monde. Et puis il y a surtout les thèses racialistes qui se développent avec un certain nombre d'intellectuels. C'est l'époque du colonialisme et on va décréter qu'il y a des races supérieures et des races inférieures. Bien sûr, les Noirs ou les Indiens ou les Arabes vont être des races inférieures. Et en Europe, la race inférieure, ça va être les Juifs. Et cet anti-judaïsme, cet antisémitisme racial va devenir hégémonique en Europe et même va devenir une politique d'État dans l'Empire russe où vivent 60% des Juifs du monde entier à la fin du 19e siècle. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le sionisme, qui est une idéologie, donc on arrête de tout mélanger sur juifs et sionistes, et c'est la pire des réponses à l'antisémitisme. D'abord, le sionisme était extrêmement minoritaire chez les juifs, la majorité d'entre eux étaient soit laïcs et souvent socialistes et révolutionnaires, soit religieux, et les religieux étaient à cette époque-là étrangers au sionisme. Le sionisme va d'abord être une théorie de la séparation, qui déclare que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble. C'est le contraire de ce que disent les droits de l'homme. Les premiers sionistes vont aller démarcher les antisémites en leur disant « Votre intérêt est le nôtre et le même que les juifs quittent l'Europe ». Herzl fera ça très bien, c'est le fondateur du sionisme. Le sionisme va être une idéologie coloniale et il faut comprendre que Israël, c'est un fait colonial dont la finalité a été décrétée 50 ans avant la Shoah. Ce n'est pas une réponse au génocide nazi. Et le sionisme va copier sur tous les nationalismes européens l'idée d'un État ethniquement pur en niant l'existence et les droits du peuple autochtone qui était le peuple palestinien. Et il va s'allier pour cela à l'impérialisme britannique. Donc c'est une idéologie qui pour nous est complètement contraire à notre histoire. Nous, à l'UJFP, nous sommes un petit peu les héritiers d'une période où la majorité des Juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Donc un État ethnique, c'est totalement contraire à nos valeurs.
Alors votre ouvrage s'intitule « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien », ce que d'aucuns, par ignorance ou par malveillance, pourraient juger contradictoire, mais il n'en est rien. Alors on va prendre les termes chacun à leur tour. Comment lutter contre l'antisémitisme ?
Alors d'abord, il y a une question qui se pose, c'est l'antisémitisme est-il, bon, je prends le mot de l'ennemi, puisque ce mot s'est imposé, est-il un racisme à part ? Il l'a été incontestablement au moment du génocide nazi. Tous les racismes ne mènent pas à l'extermination de la communauté qui est haïe. Mais aujourd'hui, dire que l'antisémitisme en France est plus virulent que le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms ou l'islamophobie, c'est pas vrai. Ne serait-ce que si on regarde en termes de discrimination, il est évident par exemple que les Noirs et les Arabes subissent à l'emploi et au logement des discriminations que les Juifs ne subissent pas. Donc nous évitons totalement tout ce qui pourrait être une concurrence des victimes ou tout ce qui pourrait être une division des gens qui subissent le racisme. Donc pour nous, la lutte contre l'antisémitisme, elle fait partie de la lutte générale contre le racisme avec toutes les victimes du racisme. Et ça explique que l'UJFP soutient évidemment les droits des migrants, soutient les sans-papiers, soutient des gens formidables comme comme SOS Méditerranée, parce que nous sommes clairement pour le vivre ensemble dans l'égalité des droits et que nous refusons toutes les discriminations. J'ajouterai aussi, parce qu'on dit souvent qu'il y a un nouvel antisémitisme dans les classes populaires. Historiquement, l'antisémitisme, c'est l'extrême droite. Le dénominateur commun de toutes les idéologies de haine et d'exclusion pendant plus d'un siècle en Europe, c'était l'antisémitisme. Et aujourd'hui, c'est l'islamophobie, et c'est pour ça qu'il y a une continuité dans les deux. Et souvent, nous, à l'UJFP, quand nous intervenons dans les quartiers pour défendre la Palestine, les jeunes nous disent « on savait pas qu'il y avait des juifs comme vous ». Quand à Gaza, l'Union juive française pour la paix a financé un château d'eau, a financé une pépinière solidaire pour les paysans de Gaza et qu'ils ont inscrit eux-mêmes sur le château d'eau UJFP, on estime qu'on a fait beaucoup contre l'antisémitisme et pour dire que la guerre qui se passe là-bas, c'est une guerre coloniale, ce n'est pas une guerre communautaire ou raciale.
Prenons donc maintenant le deuxième terme de votre ouvrage, comment lutter pour le droit du peuple palestinien.
Alors d'abord, souvent les gens nous disent « cette guerre est compliquée ». Elle n'est pas compliquée. Il y a un occupant et un occupé. Il y a eu un véritable nettoyage ethnique qui a eu lieu. Il y a eu une conquête coloniale avec cette particularité que le colonialisme sioniste n'était pas un colonialisme pour exploiter l'indigène, mais c'était un colonialisme pour l'expulser et le remplacer. Donc aujourd'hui, le peuple palestinien vit une situation absolument dramatique, aggravée par la fascisation du pouvoir israélien. Gaza est totalement enfermé par air, par terre et par mer. Les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem sont confrontés tous les jours à une violence absolue des colons et de l'armée. Donc les aider, c'est comprendre un petit peu comment se passe la situation. Les Palestiniens nous disent souvent, l'issue de cette guerre, elle dépend de deux choses. De notre capacité à nous, société palestinienne, de continuer à faire société, d'éduquer nos enfants, de produire, de faire la fête, de pouvoir vivre. Et de votre capacité à vous, société civile en Occident, d'être suffisamment fort pour obliger vos gouvernements à cesser d'être complices avec l'apartheid israélien. Donc soutenir les droits du peuple palestinien, c'est marcher sur ces deux axes. Par exemple, l'Union juive française pour la paix, nous aidons des tas d'associations palestiniennes, le Théâtre de la Liberté à Jenin, les paysans de Gaza qui ont construit des adductions d'eau, une pépinière, un château d'eau. Nous essayons de toute force qu'ils puissent vivre en tant que société et ne pas devenir ce qu'était le projet sioniste comme les Amérindiens du Proche-Orient ou comme les aborigènes d'Australie. Et puis ici, dans tout le mouvement de solidarité, nous devons imposer à nos gouvernements complices de cesser d'importer les produits des colonies, de cesser de faire des manœuvres militaires avec l'État d'Israël, de cesser de le protéger politiquement et diplomatiquement, de dénoncer l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Bref, c'est ça pour nous, défendre les droits du peuple palestinien. Et j'ai envie de dire que faut comprendre ce qu'on veut faire, nous. Nous pensons qu'il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits, que ce soit ici ou que ce soit en Palestine, et c'est ça que nous défendons en défendant le peuple palestinien.
Alors, j'ai bien conscience que c'est une gageure, puisqu'il nous reste 2-3 minutes environ, mais en guise de conclusion, et donc en très peu de mots malheureusement, j'aimerais vous demander, Pierre, si vous êtes optimiste ou pessimiste, pensez-vous qu'une paix soit possible dans cette région du monde ?
Je vais reprendre un peu ce que disait Michel Warshavsky, qui est un grand anticolonialiste israélien. On n'a jamais vu des privilégiés accepter de bonne grâce d'abandonner leurs privilèges. Donc aujourd'hui, Israël étant un occupant, ce sont les privilégiés. Il ne se passera rien tant qu'Israël ne sera pas sanctionné. Deux fois dans son histoire, Israël a été légèrement sanctionné. En 1957, l'ONU lui a imposé d'évacuer le Sinaï, ça s'est fait instantanément. En 1991, George Bush père a imposé qu'il y ait un début de négociation avec les Palestiniens et il a fait tomber le gouvernement israélien de l'époque et ça s'est fait aussi. Donc il ne se passera rien si nous ne sommes pas capables d'imposer qu'il y ait des sanctions contre l'État d'Israël. Le jour où il y aura des sanctions, alors oui, discuter de ce qui est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a 7 millions de Palestiniens et 7 millions d'Israéliens de juifs israéliens entre Méditerranée et Jourdain et qu'ils doivent vivre ensemble avec les mêmes droits politiques et économiques, discuter sur cette base deviendra possible. Mais il faut les sanctions d'abord.
Eh bien, espérons que l'avenir fera que ce vivre ensemble, comme pour reprendre vos mots, soit possible. Notre émission va bientôt arriver à son terme. Il me reste à remercier notre invité Pierre Stamboul, à remercier Luc Jean Reynaud à la réalisation, Étienne Rouche à la technique et Claire Poinsignon à la production. Mais je ne saurais conclure sans inviter nos auditeurs à acheter et à lire votre ouvrage, Pierre, qui s'intitule « Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien » qui est paru aux éditions Sileps. Je crois qu'un autre ouvrage a été publié et qu'un autre va l'être bientôt.
Voilà, je vais faire un peu de pub.
Bien sûr.
L'UJFP a publié un livre collectif qui s'appelle « Parcours de juifs antisionistes ». Ce sont 22 membres de notre association, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des séfarades, des ashkénazes, des qui ont été sionistes, des qui ne l'ont jamais été, et qui expliquent au travers de leur cheminement, pourquoi ils s'engagent contre le sionisme en tant que juifs. Et à la fin de l'année, nous allons faire paraître « Antisionisme, une histoire juive ». Ce seront 50 grands penseurs depuis un siècle, juifs, qui ont écrit contre le sionisme en tant que juifs.
Eh bien, cet ouvrage sera chroniqué dans La Raison, le mensuel de la libre pensée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. J'invite également sur le même sujet nos auditeurs à aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle La Situation, qui va être jouée au mois d'avril au Théâtre du Soleil. C'est de Bernard Bloch et c'est une très belle œuvre. Je vous remercie.
Merci.